tombée de la médecine. Clotilde, alors, n'eut plus d'autre préoccupation que lui. Elle se détachait du reste, elle était allée d'abord aux messes basses, puis elle avait cessé complètement de se rendre à l'église. Dans son impatience d'une certitude et du bonheur, il semblait qu'elle commençât à se contenter par cet emploi de toutes ses minutes, autour d'un être cher qu'elle aurait voulu revoir bon et joyeux. C'était un don de sa personne, un oubli d'elle-même, un besoin de faire son bonheur du bonheur d'un autre. Et cela, inconsciemment, sous la seule impulsion de son cœur de femme, au milieu de cette crise qu'elle traversait, qui la modifiait profondément, sans qu'elle en raisonnât. Elle se taisait toujours sur le désaccord qui les avait séparés. Elle n'avait pas l'idée encore de se jeter à son cou, en lui criant qu'elle était à lui, qu'il pouvait revivre puisqu'elle se donnait. Dans sa pensée, elle n'était qu'une fille tendre, le veillant, comme une autre parente l'aurait veillé. Et cela était très pur, très chaste, des soins délicats, de continuelles prévenances, un tel envahissement de sa vie que les journées, maintenant, passaient rapides, exemptes du tourment de l'au-delà, pleines de l'unique souhait de le guérir. Mais où elle eut à soutenir une véritable lutte, ce fut pour le décider à se piquer. Il s'emportait, niait sa découverte, se traitait d'imbécile. Et elle aussi criait. C'était elle à présent qui avait foi en la science, qui s'indignait de le voir douter de son génie. Longtemps, il résista. Puis, affaibli, cédant à l'empire qu'elle prenait, il voulut simplement s'éviter la tendre querelle qu'elle lui cherchait chaque matin. Dès les premières piqûres, il éprouva un grand soulagement, bien qu'il refusât d'en convenir. La tête se dégageait, les forces revenaient peu à peu. Aussi triompha-t-elle, prise pour lui d'un élan d'orgueil, exaltant sa méthode, se révoltant de ce qu'il ne s'admira pas lui-même, comme un exemple des miracles qu'il pouvait faire. Il souriait. Il commençait à voir clair dans son cas. Ramon avait dit vrai. Il ne devait y avoir eu là que de l'épuisement nerveux. Peut-être, tout de même, finirait-il par s'en tirer. « Hé, c'est toi qui me guéris, petite fille, » disait-il, sans vouloir avouer son espoir. « Les remèdes, vois-tu, ça dépend de la main qui les donne. » La convalescence traîna, durant tout le mois de février. Le temps restait clair et froid. Pas un jour le soleil ne cessa de chauffer la salle, de son bain de pâles rayons. Et il y eut pourtant des rechutes de noire tristesse, des heures où le malade retombait à ses épouvantes, tandis que sa gardienne, désolée, devait aller s'asseoir à l'autre bout de la pièce pour ne pas l'irriter davantage. De nouveau, il désespérait de la guérison, il devenait amer, d'une ironie agressive. Ce fut par un de ces mauvais jours que Pascal, s'étant approché d'une fenêtre, aperçut son voisin, M. Bellombre, le professeur retraité, en train de faire le tour de ses arbres pour voir s'ils avaient beaucoup de boutons à fruits. La vue du vieillard, si correct et si droit, d'un beau calme d'égoïsme, sur lequel la maladie ne semblait avoir jamais eu de prise, le jeta brusquement hors de lui. « Ah ! gronda-t-il. En voilà un qui ne se surmènera jamais, qui ne risquera jamais sa peau à se faire du chagrin. » Et il partit de là, entama une éloge ironique de l'égoïsme. Être tout seul au monde, n'avoir pas un ami, pas une femme, pas un enfant à soi, quelle félicité ! Ce dur avare, qui pendant 40 ans n'avait eu qu'à gifler les enfants des autres, qui s'était retiré à l'écart, sans un chien, avec un jardinier muet et sourd, plus âgé que lui, ne représentait-il pas la plus grande somme de bonheur possible sur la terre? Pas une charge, pas un devoir, pas une préoccupation autre que celle de sa chère santé. C'était un sage, il vivrait 100 ans. Ah, la peur de la vie, décidément, il n'y a point de lâcheté meilleure. Dire que j'ai parfois le regret de n'avoir pas ici un enfant à moi. Est-ce qu'on a le droit de mettre au monde des misérables? Il faut tuer l'hérédité mauvaise, tuer la vie. Le seul honnête homme, tiens, c'est ce vieux lâche. Monsieur Bellombre, paisiblement, au soleil de mars, continuait à faire le tour de ses poiriers. Il ne risquait pas un mouvement trop vif, il économisait sa verte vieillesse. Comme il venait de rencontrer un caillou dans l'allée, il l'écarta du bout de sa canne, puis passa sans hâte. « Regarde-le donc! Est-il bien conservé? Est-il beau? A-t-il toutes les bénédictions du ciel dans sa personne? Je ne connais personne de plus heureux !» Clotilde, qui se taisait, souffrait de cette ironie de Pascal, qu'elle devinait si douloureuse. Elle qui, d'habitude, défendait M. Bellombre, sentait en elle monter une protestation. Des larmes lui vinrent aux paupières, et elle répondit simplement, à voix basse, « Oui, mais il n'est pas aimé. » Cela, du coup, fit cesser la pénible scène. Pascal, comme s'il avait reçu un choc, se retourna, la regarda. Un subit attendrissement lui mouillait aussi les yeux, et il s'éloigna pour ne pas pleurer. Des jours encore se passèrent, au milieu de ces alternatives de bonnes et de mauvaises heures. Les forces ne revenaient que très lentement, et ce qui le désespérait, c'était de ne pouvoir se remettre au travail sans être pris de sueurs abondantes. S'il s'était obstiné, il se serait sûrement évanoui. Tant qu'il ne travaillerait pas, il sentait bien que la convalescence traînerait. Cependant, il s'intéressait de nouveau à ses recherches accoutumées. Il relisait les dernières pages qu'il avait écrites. Et, avec ce réveil du savant en lui, reparaissaient ses inquiétudes d'autrefois. Un moment, il était tombé à une telle dépression que la maison entière avait comme disparu. On aurait pu le piller, tout prendre, tout détruire, qu'il n'aurait pas même eu la conscience du désastre. Maintenant, il se remettait aux aguets. Il tâtait sa poche pour bien s'assurer que la clé de l'armoire s'y trouvait. Mais, un matin, comme il s'était oublié au lit et qu'il sortait